Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour à tous, aucune fusée donc dans le ciel américain ce lundi, énorme déception à Cap Canaveral en Floride. Le décollage de la méga fusée de la NASA vers la Lune a été annulé à cause d'un problème technique sur l'un des moteurs principaux de l'engin.
Artemis avait tenu une partie de la planète en haleine le 29 août dernier, mais la nouvelle fusée de la NASA était restée sur son pas de tir à Cap Canaveral en Floride. La Lune allait devoir attendre un peu, et les Américains aussi, avant de reposer un jour le pied sur ce satellite qui fait de l'œil au terrien depuis la nuit des temps.
Tu as l'âge de tes cratères,
ô vieille Lune,
sage femme de l'univers,
s'il en est une.
Règne sur le cours des mers
et sur Neptune.
Que caches-tu dans tes arrières?
Une fortune.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et aujourd'hui, on va s'intéresser aux enjeux de la reconquête de la Lune. Ce n'était pas le décollage le plus attendu, en tout cas par les Américains et les Européens. Le 31 octobre dernier, la fusée Longue Marche 5B a décollé en Chine avec à son bord le module Mengtian, rêve des cieux. Dernier élément de la station spatiale orbitale chinoise. La station Tiangong, palais céleste, est bien partie pour s'installer dans la durée à 450 km au-dessus de la Terre. Pendant ce temps aux États-Unis, Artemis attendait son heure depuis maintenant plus de 2 mois. La fusée SLS a finalement décollé le 16 novembre 2022 après une dernière frayeur liée à une fuite et un souci de radar.
4-stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond.
Bonjour Florian Motion.
Bonjour.
Vous êtes journaliste aux Échos, hein. Vous l'attendiez depuis longtemps ce moment. Pendant 2 mois, la NASA a joué avec les nerfs des amateurs d'aventures spatiales avec ses annulations à répétition. Pourquoi Artemis a-t-il mis autant de temps à s'envoler vers la Lune?
Alors déjà, il faut prendre en compte le fait que le SLS a été très très difficile à concevoir et a engrangé énormément de retard. Le projet a été lancé en 2011 avec un premier vol prévu initialement en 2017, mais tout a été compliqué. Boeing n'a achevé le premier exemplaire du premier étage du lanceur que fin 2019. Et s'est ajouté à cela la pandémie de Covid qui a fortement retardé le calendrier et les ultimes tests au sol qui ont eux aussi été très chaotiques et la NASA a dû s'y reprendre à plusieurs fois. Et Artemis a ensuite beaucoup joué de malchance sur le pas de tir. Elle devait partir le 29 août, mais a rencontré un problème de valve sur l'un des 4 moteurs du premier étage. La NASA a voulu faire une tentative très rapidement, le 3 septembre, mais cette fois, c'est une fuite d'hydrogène pendant le remplissage des réservoirs qui a empêché le tir. Et il y a ensuite eu le passage de l'ouragan Yann qui a imposé de rentrer le lanceur dans son hangar. Et ce genre d'opération est très lourde et bloque le calendrier pour plusieurs semaines. Et à sa sortie début novembre, la fusée a dû essuyer cette fois l'ouragan Nicole, dont la violence n'avait pas été correctement anticipée. Le SLS a été cette fois plutôt chanceux. À 5 km/h près, les rafales de vent ont failli dépasser la limite au-delà de laquelle la NASA estime que l'intégrité structurelle du lanceur est remise en question. Mais heureusement, les dégâts se sont avérés mineurs et ont pu être réparés en quelques jours.
Ouais, ça veut dire que s'il y a trop de vent, il faut rentrer la fusée dans son hangar et là, ça reprend encore du temps. Hein.
Alors en théorie, oui. Et là où la NASA n'a pas pu profiter de prévisions météo suffisamment précises, c'est qu'elle a pris la décision de sortir sa fusée alors que Nicole n'était qu'une tempête tropicale et donc en théorie avec des vents qui étaient encore dans la norme. Ils ont sorti la fusée, la tempête tropicale est devenue ouragan, il était trop tard pour rentrer la fusée puisque pendant l'opération de retour dans le hangar, les vitesses maximales de la limite de vent est plus basse. Donc, il faut prendre ça en compte. Donc, c'était trop tard pour la rentrée. Donc, la décision a été prise de la laisser sur son pas de tir et de voir ce qu'allait se passer. Et par chance, les limites n'ont pas été atteintes.
Ouais, c'est sûr, hein, rentrer un tel objet dans un hangar, hein, c'est pas comme rentrer la 4L dans le garage. Pour qu'on comprenne bien d'ailleurs, faire décoller une telle fusée, c'est un défi, un exploit technique.
Oui, absolument. Même si les lancements spatiaux sont devenus très courants, notamment avec l'émergence de SpaceX, on a l'impression qu'il y a des lancements à peu près tous les 3 jours, envoyer quelque chose dans l'espace n'a jamais été facile. Pour y parvenir, il faut déjà s'arracher à la gravité terrestre, qui maintient au sol, qui maintient tous les objets au sol, et au frottement de l'atmosphère. Et même si les fusées sont dessinées pour être parfaitement aérodynamiques, la moindre déviation de trajectoire pendant le tir peut entraîner une catastrophe et la destruction de l'engin. Donc pour toutes ces raisons, les contraintes de sécurité sont énormes, surtout lorsqu'il s'agit de certifier un lanceur conçu pour du vol habité, comme c'est le cas pour le SLS. Il faut ensuite atteindre une vitesse suffisante pour que la charge utile ne retombe pas immédiatement dans l'atmosphère. Pour se maintenir en orbite terrestre, il faut atteindre ce qu'on appelle la vitesse de satellisation, c'est-à-dire 8 km/s, un peu moins de 29 000 km/h. Donc pour vaincre l'attraction terrestre, comme c'est le cas d'Artemis 1, qui doit propulser la capsule Orion vers la Lune, on parle même de vitesse de libération, c'est-à-dire 11 km/s, un peu plus de 40 000 km/h. Voilà pourquoi il faut des fusées extrêmement puissantes pour l'envoi de charges utiles lourdes vers la Lune ou plus tard vers Mars. Pour donner un ordre d'idée, la version du SLS utilisée pour Artemis 1 peut envoyer 27 tonnes vers la Lune. Son premier étage contient 2,7 millions de litres d'ergol et les propulseurs d'appoint de chaque côté embarquent chacun 127 tonnes de carburant solide. Si on schématise, pour envoyer 1 kg, il faut 100 litres d'ergol et près de 5 kg de carburant solide.
La fusée SLS, la plus puissante jamais conçue par la NASA, a donc quitté le plancher des vaches ce mercredi 16 novembre. Il était un peu plus de 7 heures du matin à Paris. Enfin, pourrait-on dire, mais on l'a compris, un tel programme ne s'improvise pas et doit laisser peu de place au hasard. La mission d'Artemis 1 doit durer 25 jours et ce n'est que le début d'un programme ambitieux pour la NASA.
Cette première mission Artemis 1, c'est que le début de l'aventure, puisque c'est une mission test, sans équipage humain à bord d'Orion, hein, faut-il le rappeler, qui va aller jusqu'à la Lune, au-delà de la Lune, et puis revenir.
Yann Verdeau est journaliste spécialiste des questions de science aux Échos.
Et cette mission test sera suivie d'une série d'autres missions Artemis. On en a déjà 2 en ligne de mire. Artemis 2 en 2024, sans doute, qui sera la répétition d'Artemis 1 avec cette fois un équipage humain à bord. Et Artemis 3 qui sera la grande mission, la mission phare, celle qui aboutira à ce que de nouveaux Moonwalkers foulent le sol lunaire. Et bon, la NASA annonce Artemis 3 pour 2025. On peut émettre de sérieuses réserves quant à une date aussi rapprochée, mais en tout cas, bon, on peut aussi avoir l'espoir que Artemis 3 se déroulera quelque part dans le courant de la décennie. Donc voilà, si on fait le parallèle avec les programmes Apollo des années 60, on peut voir Artemis 2, donc la prochaine mission, serait un peu l'équivalent d'Apollo 8, qui avait vu les 3 hommes d'Apollo 8, là, notamment Frank Borman, James Lovell et William Anders, faire le tour de la Lune et revenir sans s'y poser. C'était les premiers humains à voir un lever de terre. Et Artemis 3 serait l'équivalent, elle, d'Apollo 11, la mission de Neil Armstrong et Buzz Aldrin.
Mais pourquoi ce nom d'Artemis, d'ailleurs ?
Alors, ce nom d'Artemis, bah, ça vient évidemment de la mythologie grecque. Artemis, dans la mythologie grecque, c'est la fille de Zeus et de Leto. Et ce qui en fait la sœur, voire la sœur jumelle, au dire de certains, d'Apollon. Apollon se dit en anglais Apollo, et c'est évidemment ce dieu-là qui a donné son nom au programme Apollo des années 60. Donc en fait, baptiser ce nouveau programme lunaire Artemis, de ce nom d'Artemis, bah, c'est une façon pour la NASA de l'inscrire déjà dans la continuité du programme Apollo. Et puis, c'est aussi une façon peut-être de renouer avec ce qui a fait ses grandes heures de gloire.
Il y a une notion symbolique très importante. Quelle est la mission de ce premier vol vers la Lune? On a bien compris qu'il y en aurait d'autres derrière.
Alors, Artemis 1, c'est un baptême de l'espace. C'est même en fait un double baptême de l'espace, puisque c'est à la fois le baptême de l'espace de la fusée, du lanceur, le SLS, et c'est aussi le baptême de l'espace du vaisseau Orion qui va faire le voyage jusqu'à la Lune et retour. Alors, on a vu que bah, cette mission avait rencontré un certain nombre de problèmes techniques au dernier moment qui ont entraîné le report du lancement. Et tous ces problèmes techniques, qu'il s'agisse de fuite de réservoirs, de réacteurs qui n'arrivent pas à la bonne température, montre bien, a posteriori, que ce double attelage SLS Orion avait besoin d'être testé une première fois sans humain à bord, parce que ça reste quelque chose de très compliqué et quand même d'assez risqué. Donc alors, ce que va faire Artemis 1, ça va être d'envoyer ce vaisseau Orion piloté depuis le centre de contrôle sur Terre jusqu'à la Lune et revenir. Donc en fait, comme je le disais, il va même aller beaucoup plus loin que les 384 000 km qui nous séparent de la Lune, puisqu'il va faire 64 000 km supplémentaires derrière la Lune. Donc ce petit détour, si on peut dire, de 64 000 km en arrière de la Lune, fera tout de même d'Orion la capsule habitable s'étant enfoncée le plus profondément dans l'espace. Bien sûr, on a envoyé d'autres sondes beaucoup plus loin que ne va le faire Orion. Je pense notamment aux sondes voyageurs qui ont même franchi les limites du système solaire. Donc, elles sont allées beaucoup plus loin, mais ce n'étaient pas des capsules habitables. Alors, donc, la mission phare d'Artemis 1, c'est d'apporter la preuve qu'Orion est un vaisseau sûr, capable d'emmener un équipage humain jusqu'à la Lune et faire revenir. Et en particulier, on va tester le bouclier thermique, puisque quand la capsule Orion, quand le vaisseau Orion reviendra dans l'atmosphère terrestre, il le fera à une vitesse d'à peu près 40 000 km/h, ce qui provoquera un chauffage jusqu'à une température moitié aussi chaude que la surface du Soleil, donc c'est quand même du costaud.
Artemis 1, c'est une mission test, un test nécessaire au vu des difficultés rencontrées par la NASA. Yann, on l'a compris, ce n'est que le début de l'aventure. Quelles seront les autres étapes de la mission ?
Effectivement, Artemis 1 n'est qu'un début, qui sera suivi par Artemis 2, donc comme je le disais, la même chose, mais avec cette fois un équipage de 4 hommes et femmes à bord, ça sera 3 Américains, 1 Canadien. Et surtout, ensuite, Artemis 3, donc, qui sera la mission qui aboutira à ce que des hommes foulent à nouveau le sol de la Lune. Alors, c'est ça, en fait, qui est très compliqué, et c'est ça qui reste à faire, ça va être de trouver un moyen pour faire descendre des hommes à la surface de la Lune et les en faire remonter. Et ce moyen, on le connaît, du moins sur le papier, depuis le printemps 2021, puisqu'en avril 2021, et un peu, il faut bien le dire, à la surprise générale, la NASA a fait le choix de s'en remettre entièrement à SpaceX, la firme d'Elon Musk, pour cet alunissage et ce redécollage depuis la surface de la Lune. L'agence spatiale américaine a notamment éliminé les deux autres compétiteurs qui étaient encore en lice, c'est-à-dire Dynetics et Blue Origin, la firme du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, pour ne retenir que la fusée Starship de SpaceX pour être son Human Landing System, HLS, c'est-à-dire en gros son atterrisseur lunaire. Alors, c'est un pari extrêmement audacieux de la part de la NASA, surtout si on compare effectivement à ce que proposaient les autres compétiteurs, Blue Origin par exemple, qui proposaient quelque chose de beaucoup plus classique, ressemblant beaucoup plus à ce qui avait déjà été fait du temps d'Apollo. On pourrait dire que le schéma proposé par Blue Origin, c'était une sorte d'Apollo 2.0, d'Apollo amélioré. SpaceX, lui, au contraire, avec cette fusée Starship, renverse la table et propose un schéma complètement différent qui n'a évidemment encore jamais été réalisé. Et ce schéma, eh bien, c'est assez facile à comprendre, c'est en gros la fusée de Tintin. C'est-à-dire une fusée qui va devoir descendre vers la Lune, se retourner à un moment de sa descente pour pouvoir se poser sur ses pattes, sur ses pieds, et une fusée qui servira d'habitacle aux quatre membres de l'équipage d'Artemis III durant les quelques jours, je crois que c'est 6 jours que durera leur mission à la surface de la Lune, et une fusée qui remontera d'un seul bloc pour les faire redécoller de la Lune, et tout ça exactement comme l'avait imaginé Hergé. Donc, ça a l'air de rien, dit comme ça. La preuve, c'est que Hergé l'avait imaginé. Mais c'est tout de même profondément disruptif, en fait, comme schéma par rapport à tout ce qu'on a pu tester et réaliser jusqu'à présent. Et il faut bien avoir en tête le changement d'échelle que ça représente par rapport aux missions Apollo. Le LEM Eagle, donc le petit module qui a servi notamment à Neil et Buzz à descendre sur la Lune, n'était qu'un tout petit engin de 7 mètres de haut, d'une masse totale de 15 tonnes, et encore sur ces 15 tonnes, il y avait 13 tonnes de carburant. Et en comparaison, la Starship de SpaceX est quelque chose de tout à fait énorme. Hein. C'est une fusée de 50 mètres de haut, 9 mètres de diamètre, une masse de plus de 1300 tonnes. Et ce changement d'échelle représente un sacré défi quand même, à la fois pour la NASA et pour SpaceX, la firme d'Elon Musk. Et c'est ce qui fait dire à pas mal d'observateurs que la date de 2025 pour Artemis 3 paraît quand même bien optimiste.
Le départ est toujours fixé à 1h34, mais malheureux, il y a une demi-heure que nous avons quitté la Terre. Nous sommes en route vers la Lune.
Ah, elle est bien bonne, celle-là, professeur. Elle est très bonne.
On comprend qu'il y a beaucoup de travail. En tout cas, moi, je leur déconseille d'embarquer les Dupont et Dupont hein, pour tenter la mission de redécollage de la Lune. On ne sait jamais. Contrairement aux missions Apollo des années 60-70, l'objectif, c'est d'avoir une présence durable sur la Lune.
Oui, c'est tout à fait l'objectif, clairement affiché. Une présence durable, et on pourrait même dire d'ailleurs une double présence durable, à la fois autour de la Lune et sur la Lune. Alors, autour de la Lune, ça passera par cette station spatiale orbitale Gateway, qui orbitera donc autour de la Lune, qui sera une sorte de réplique miniature de, eh bien, de la station spatiale internationale qu'on connaît, qui est à quelques centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, mais qui orbite autour de la Terre. Donc, ça sera une sorte de modèle réduit de l'ISS, qui orbitera autour de la Lune et qui sera habité de façon durable, sans doute pas permanente, mais durable, par des équipages d'astronautes qui s'y relaieront. Donc ça, c'est pour autour de la Lune. Et sur la Lune, eh bien, ce sera, côté américain, l'Artemis Base Camp, c'est-à-dire un projet de base au sol lunaire qui sera construite par des robots d'abord, par des humains ensuite, quelque part près du pôle sud lunaire. Alors, je dis côté américain parce que les Chinois ont la même volonté, le même objectif. Eux aussi veulent installer une base au sol près du pôle sud lunaire. Cette base, ce sera une station scientifique installée sur la Lune qui s'appellera l'International Lunar Research Station, ILRS, station pour laquelle les Chinois se sont alliés aux Russes. Et donc, elle sera installée également au pôle sud lunaire. Donc, ça sera vraiment the place to be.
Le programme Artemis va succéder au programme Apollo avec une vision de long terme. On peut aussi parler d'un changement de philosophie de la part de la NASA ?
Oui, tout à fait. Même si Artemis et Apollon sont jumeaux dans la mythologie grecque, les programmes Artemis et Apollo sont quand même deux programmes très, très différents. Différents par le coût, tout d'abord. Certes, Artemis eh bien, coûte cher. Hein. Selon un audit récent, chaque mission Artemis coûterait à elle seule 4,1 milliards de dollars, dont 2,2 milliards pour le seul lanceur. Donc, c'est une somme très, très conséquente. Mais on reste encore loin du véritable effort de guerre qui avait été consenti par l'Amérique de Kennedy pour damer le pion russe dans la course à la Lune et boucler le programme Apollo. On estime que le programme Apollo rapporté en dollars actuels aurait coûté quelque chose comme 300 milliards de dollars. Ça représente plus de 4% des dépenses fédérales. C'était une armée de 400 000 employés au service d'un projet dont l'esprit n'avait pas grand-chose à envier aux plus staliniens des plans quinquennaux. Donc, voilà, Artemis, par rapport à Apollo, c'est quand même un cran en dessous. Et ensuite, il y a une profonde différence de nature entre les deux programmes. Apollo, et Gemini d'ailleurs avant Apollo, c'était la NASA. Et la NASA, c'était l'État. Par comparaison, Artemis relève beaucoup plus du partenariat public-privé. Non pas tant parce que la maîtrise d'œuvre du SLS, le lanceur, a été confiée à Boeing ou que celle d'Orion a été confiée à Lockheed Martin, qu'en raison du rôle exorbitant joué par SpaceX dans cette affaire. Je pense qu'on y reviendra. Et puis enfin, contrairement à ce qu'ils avaient fait du temps d'Apollo, les Américains ne s'engagent pas seuls dans cette nouvelle aventure lunaire. Ils le font avec l'appui, le concours de tous leurs partenaires étatiques historiques, Canada, Japon et l'Europe, les pays européens, partenaires auxquels ils ont pris soin de faire signer les accords Artemis, qui est une sorte de règlement intérieur en 10 points, depuis l'interopérabilité des systèmes jusqu'à la gestion des débris, en passant par l'instauration de safety zones, une sorte de règlement intérieur de ce que devra être la cohabitation des nations sur la Lune. Et parmi ses partenaires, l'ESA est sans doute, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, est sans doute le principal.
Vous parliez de cette ouverture au secteur privé. Il y a effectivement un nom qui ressort au premier plan, c'est celui d'Elon Musk.
Oui, parce que SpaceX, et à travers SpaceX, Elon Musk, n'est pas un contractant privé traditionnel, comme on en a vu depuis la naissance de la NASA, en fait. C'est-à-dire un contractant qui travaille sous la houlette de la NASA et selon un cahier des charges extrêmement précis défini par la NASA. Avec SpaceX et Elon Musk, ça se passe un peu différemment, voire même très différemment, ne serait-ce que parce que Musk a une vision de ce qu'est l'avenir de la conquête spatiale et il propose un récit. On peut se poser la question de faut-il adhérer à ce récit ou pas ? C'est une question légitime. Mais en tout cas, lui en propose un. Et donc, ça place de facto SpaceX beaucoup plus sur un pied d'égalité avec la NASA. Plus qu'un contractant, c'est le vrai partenaire privé de la NASA dans cette aventure. Et donc, on peut dire que si les Américains retournent un jour sur la Lune, et on peut raisonnablement penser qu'ils le feront au cours de cette décennie, ce sera beaucoup plus la victoire du charismatique Citizen Kane sud-africain que celle de Donald Trump, Joe Biden ou tel de leurs successeurs à la Maison-Blanche.
Ça veut dire qu'on pourrait avoir une Tesla sur la Lune, un de ces quatre?
Ah bah écoutez, peut-être à long terme.
Merci Yann Verdeau et Florent Motion de la rédaction des Échos. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la suite des aventures d'Artemis et de la NASA dans un prochain épisode de La Story. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.